Quand le chevalier arriva au château, un Suisse était encore devant les péristyles. « Ordre du roi !» dit le jeune homme, qui cette fois ne redoutait plus les hallebardes. Et montrant sa lettre, il entra gaiement au travers d'une demi-douzaine de laquais. Un grand huissier, planté au milieu du vestibule, voyant l'ordre et le sceau royal, s'inclina gravement comme un peuplier courbé par le vent, puis de l'un de ses doigts osseux, il toucha en souriant le coin d'une boiserie. Une petite porte battante, masquée par une tapisserie, s'ouvrit aussitôt comme d'elle-même. L'homme osseux fit un signe obligeant. Le chevalier entra et la tapisserie, qui s'était entr'ouverte, retomba mollement derrière lui. Un valet de chambre silencieux l'introduisit alors dans un salon, puis dans un corridor, sur lequel s'ouvraient deux ou trois petits cabinets, puis enfin dans un second salon, et le pria d'attendre un instant. « Suis-je encore ici au château de Versailles ?» se demandait le chevalier. « Allons-nous recommencer à jouer à Clis-Musette ?» Trianon n'était à cette époque ni ce qu'il est maintenant, ni ce qu'il avait été. On a dit que Madame de Maintenon avait fait de Versailles un oratoire et Madame de Pompadour un boudoir. On a dit aussi de Trianon que ce petit château de porcelaine était le boudoir de Madame de Pontesmant. Quoi qu'il en soit de tous ces boudoirs, il paraît que Louis XV en mettait partout. Telle galerie où son aïeul se promenait majestueusement était alors bizarrement divisée en une infinité de compartiments. Il y en avait de toutes les couleurs, et le roi allait papillonner dans ses bosquets de soie et de velours. Trouvez-vous de bon goût mes petits appartements meublés ? Demanda-t-il un jour à la belle comtesse de Sérent. Non, dit-elle, je les voudrais bleus. Comme le bleu était la couleur du roi, cette réponse le flatta. Au second rendez-vous, Madame de Sérent trouva le salon meublé en bleu, comme elle l'avait désiré. Celui dans lequel, en ce moment, le chevalier se trouvait seul, n'était ni bleu, ni blanc, ni rose, mais tout en glace. On sait combien une jolie femme qui a une jolie taille gagne à laisser ainsi son image se répéter sous mille aspects. Elle éblouit, elle enveloppe, pour ainsi dire, celui à qui elle veut plaire. De quelque côté qu'il regarde, il la voit. Comment l'éviter? Il ne lui reste plus qu'à s'enfuir ou à s'avouer subjuguer. Le chevalier regardait aussi le jardin. Là, derrière les charmilles et les labyrinthes, les statues et les vases de marbre, commençait à poindre le goût pastoral que la marquise allait mettre à la mode et que plus tard Madame du Barry et la reine Marie-Antoinette devaient pousser à un si haut degré de perfection. Déjà apparaissaient les fantaisies champêtres où se réfugiait le caprice blasé. Déjà les tritons boursouflés, les graves déesses et les nymphes savantes, les bustes à grandes perruques glaçaient l'horreur dans leur niche de verdure, voyaient sortir de terre un jardin anglais au milieu des ifs étonnés. Les petites pelouses, les petits ruisseaux, les petits ponts allaient bientôt détrôner l'Olympe pour le remplacer par une laiterie, étrange parodie de la nature, que les Anglais copient sans la comprendre, vrai jeu d'enfant, devenu alors le passe-temps d'un maître indolent qui ne savait comment se désennuyer de Versailles, dans Versailles même. Mais le chevalier était trop charmé, trop ravi de se trouver là pour qu'une réflexion critique puisse se présenter à son esprit. Il était au contraire prêt à tout admirer, et il admirait en effet, tournant sa missive dans ses doigts comme un provincial fait de son chapeau, lorsqu'une jolie fille de chambre ouvrit la porte et lui dit doucement « Venez, monsieur ». Il la suivit, et après avoir passé de nouveau par plusieurs corridors plus ou moins mystérieux, elle le fit entrer dans une grande chambre où les volets étaient à demi fermés. Là, elle s'arrêta et parut écouter. Toujours Climuzette, se disait le chevalier. Cependant, au bout de quelques instants, une porte s'ouvrit encore, et une autre fille de chambre, qui semblait devoir être aussi jolie que la première, répéta du même ton les mêmes paroles. « Venez, monsieur. » S'il avait été ému à Versailles, il l'était maintenant bien autrement, car il comprenait qu'il touchait au seuil du temple qu'habitait la divinité. Il s'avança, le cœur palpitant. Une douce lumière, faiblement voilée par de légers rideaux de gaz, succéda à l'obscurité. Un parfum délicieux, presque imperceptible, se répandit dans l'air tout autour de lui. La fille de chambre écarta timidement le coin d'une portière de soie et au fond d'un grand cabinet de la plus élégante simplicité, il aperçut la dame à l'éventail, c'est-à-dire la toute-puissante marquise. Elle était seule, assise devant une table, enveloppée d'un peignoir, la tête appuyée sur sa main et paraissait très occupée. En voyant entrer le chevalier, elle se leva par un mouvement subit et comme involontaire. « Vous venez de la part du roi ?» Le chevalier aurait pu répondre, mais il ne trouva rien de mieux que de s'incliner profondément en présentant à la marquise la lettre qu'il lui apportait. Elle la prit, ou plutôt s'en empara, avec une extrême vivacité. Pendant qu'elle la décachetait, ses mains tremblaient sur l'enveloppe. Cette lettre, écrite de la main du roi, était assez longue. Elle la dévora d'abord, pour ainsi dire, d'un coup d'œil, puis elle la lut avidement, avec une attention profonde, le sourcil froncé et serrant les lèvres. Elle n'était pas belle ainsi, elle ne ressemblait plus à l'apparition magique du petit foyer. Quand elle fut au bout, elle sembla réfléchir. Peu à peu, son visage, qui avait pâli, se colora d'un léger incarnat. À cette heure, elle n'avait pas de rouge. Non seulement la grâce lui revint, mais un éclair de vraie beauté passa sur ses traits délicats. On aurait pu prendre ses joues pour deux feuilles de rose. Elle poussa un demi-soupir, laissa tomber la lettre sur la table, et se retournant vers le chevalier, « Oh, je vous ai fait attendre, monsieur, lui dit-elle avec le plus charmant sourire, mais c'est que je n'étais pas levée, et je ne le suis même pas encore. Voilà pourquoi j'ai été forcée de vous faire venir par les cachettes, car je suis assiégée ici presque autant que si j'étais chez moi. Je voudrais répondre un mot au roi. Vous ennuie-t-il de faire ma commission ?» Cette fois, il fallait parler. Le chevalier avait eu le temps de reprendre un peu de courage. « Hélas, madame, dit-il tristement, c'est beaucoup de grâce que vous me faites, mais par malheur, je n'en puis profiter. Pourquoi cela ? Ben, je n'ai pas l'honneur d'appartenir à sa majesté. Mais comment donc êtes-vous venu ici ? Par un hasard. J'ai rencontré en route un page qui s'est jeté par terre et qui m'a prié. Comment jeté par terre ? Répéta la marquise en éclatant de rire. Elle paraissait si heureuse en ce moment que la gaieté lui venait sans peine. « Oui, madame, il est tombé le cheval à la grille. Je me suis trouvé là, malheureusement, pour l'aider à se relever, et comme son habit était fort gâté, il m'a prié de me charger de son message. » « Et par quel hasard vous êtes-vous trouvé là ?»« Madame, c'est que j'ai un placet à présenter à sa majesté. »« Ah, sa majesté demeure à Versailles. » « Oui, mais vous, vous demeurez ici. »« Oui, da, en sorte que c'était vous qui vouliez me charger d'une commission. »« Madame, je vous supplie de croire. Ne vous effrayez pas, vous n'êtes pas le premier. »« Mais à propos de quoi vous adresser à moi ? Je ne suis qu'une femme, comme une autre. »« En prononçant ces mots d'un air moqueur, la marquise jeta un regard triomphant sur la lettre qu'elle venait de lire. Madame, reprit le chevalier, j'ai toujours ouï dire que les hommes exerçaient le pouvoir et que les femmes en disposaient, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur, il y a une reine de France. Je le sais, madame, et c'est ce qui fait que je me suis trouvé là ce matin. La marquise était plus qu'habituée à de semblables compliments, bien qu'on ne les lui fît qu'à voix basse. Mais dans la circonstance présente, celui-ci parut lui plaire très singulièrement. Et sur quelle foi, dit-elle, sur quelle assurance avez-vous cru pouvoir parvenir jusqu'ici? Car vous ne comptiez pas, je suppose, sur un cheval qui tombe en chemin. Madame, je croyais, j'espérais. Qu'espériez-vous? J'espérais que le hasard pourrait faire. Toujours le hasard. Il est de vos avis, à ce qu'il paraît. Mais je vous avertis que, si vous n'en avez pas d'autre, c'est une triste recommandation. Peut-être la fortune offensée voulut-elle se venger de cette irrévérence. Mais le chevalier, que ces dernières questions avaient de plus en plus troublé, aperçut tout à coup, sur le coin de la table, précisément le même éventail qu'il avait ramassé la veille. Il le prit et, comme la veille, il le présenta à la marquise en fléchissant le genou devant elle. « Voilà, madame, lui dit-il, le seul ami que j'ai ici. » La marquise parut d'abord étonnée, hésita un moment, regardant tantôt l'éventail, tantôt le chevalier. « Ah, vous avez raison, dit-elle enfin, c'est vous, monsieur, je vous reconnais. C'est vous que j'ai vu hier, après la comédie, avec monsieur de Richelieu. J'ai laissé tomber cet éventail, vous vous êtes trouvé là, comme vous disiez. » « Oui, madame. Et fort galamment, vrai chevalier, vous me l'avez rendu. Je ne vous ai pas remercié, mais j'ai toujours été persuadé que celui qui sait d'aussi bonne grâce relever un éventail c'est aussi au besoin relever le gant. Et nous aimons assez cela, nous autres. » Et cela n'est que trop vrai, madame, car en arrivant tout à l'heure, j'ai failli avoir un duel avec le Suisse. Miséricorde, dit la marquise, prise d'un second accès de gaieté, avec le Suisse, et pourquoi faire? Il ne voulait pas me laisser entrer. « Oh, c'était dommage, mais monsieur, qui êtes-vous? Que demandez-vous? » « Madame, je me nomme le chevalier de Vauvert. Monsieur de Biron avait demandé pour moi une place de cornette aux gardes. »« Oui, da, oui, je me souviens encore. Vous venez de Nauflette, et vous êtes amoureux de mademoiselle d'Annebeau. » Madame, qui a pu vous dire? Oh, je vous préviens que je suis fort à craindre. Quand la mémoire me manque, je devine. Vous êtes parent de l'abbé Chauvelin et refusé pour cela, n'est-ce pas? Où est votre placet? Le voilà, madame, et en vérité, je ne puis comprendre. Oh, à quoi bon comprendre? Levez-vous et mettez votre papier sur cette table. Je vais répondre au roi. Vous lui porterez en même temps votre demande et ma lettre. Mais, madame, je croyais vous avoir dit. Vous irez. Vous êtes entrée ici de par le roi, n'est-il pas vrai? Eh bien, vous entrerez là-bas de par la marquise de Pompadour, dame du palais de la reine. Le chevalier s'inclina sans mot dire, saisi d'une sorte de stupéfaction. Tout le monde savait depuis longtemps combien de pourparlers, de ruses et d'intrigues la favorite avait mis en jeu et quelle obstination elle avait montrée pour obtenir ce titre qui, en somme, ne lui rapporta rien qu'un affront cruel du dauphin. Mais il y avait 10 ans qu'elle le désirait. Elle le voulait, elle avait réussi. Monsieur de Vauvert, qu'elle ne connaissait pas, bien qu'elle connût ses amours, lui plaisait comme une bonne nouvelle. Immobile, debout derrière elle, le chevalier observait la marquise, qui écrivait, d'abord de tout son cœur, avec passion, puis qui réfléchissait, s'arrêtait, et passait sa main sur son petit nez, fin comme l'ambre. Elle s'impatientait. Un témoin la gênait. Enfin, elle se décida et fit une rature. Il fallait avouer que ce n'était plus qu'un brouillon. En face du chevalier, de l'autre côté de la table, brillait un beau miroir de Venise. Le très timide messager osait à peine lever les yeux. Il lui fut cependant difficile de ne pas voir dans ce miroir, par-dessus la tête de la marquise, le visage inquiet et charmant de la nouvelle dame du palais. « Comme elle est jolie !» pensait-il. « Oh, c'est malheureux que je sois amoureux d'une autre. Mais Athénaïs est plus belle, et d'ailleurs, ce serait de ma part une si affreuse déloyauté. « De quoi parlez-vous ? » dit la marquise. Le chevalier, selon sa coutume, avait pensé tout haut sans le savoir. « Qu'est-ce que vous dites ? Moi, madame, non, j'attends. »« Voilà qui est fait, » répondit la marquise, prenant une autre feuille de papier. Mais au petit mouvement qu'elle venait de faire pour se retourner, le peignoir avait glissé sur son épaule. La mode est une chose étrange. Nos grands-mères trouvaient tout simple d'aller à la cour avec d'immenses robes qui laissaient leur gorge presque découverte, et l'on ne voyait à cela nulle indécence. Mais elles cachaient soigneusement leur dos, que les belles dames d'aujourd'hui montrent au bal ou à l'opéra. C'est une beauté nouvellement inventée. Sur l'épaule frêle, blanche et mignonne de Madame de Pompadour, il y avait un petit signe noir qui ressemblait à une mouche tombée dans du lait. Le chevalier, sérieux comme un étourdi qui veut avoir bonne contenance, regardait ce signe et la marquise, tenant sa plume en l'air, regardait le chevalier dans la glace. Dans cette glace, un coup d'œil rapide fut échangé, coup d'œil auquel les femmes ne se trompent pas, qui veut dire d'une part « Vous êtes charmante » et de l'autre « N'en suis pas fâchée ». Toutefois, la marquise rajusta son baignoire. « Vous regardez ma bouche, monsieur. »« Oh, je ne regarde pas, madame, je vois et j'admire. » « Tenez, voilà ma lettre. Portez-la au roi avec votre placet. »« Mais, madame, quoi donc ? Sa majesté est à la chasse. Je viens d'entendre sonner dans le bois de Satory. »« Oh, c'est vrai, je n'y songeais plus. »« Eh bien, demain, après-demain, peu importe. »« Non, tout de suite. Allez, vous donnerez cela à Lebel. Adieu, monsieur. » Tâchez de vous souvenir que cette mouche que vous venez de voir, il n'y a dans ce royaume que le roi qui l'ait vue. Et quant à votre ami le hasard, dites-lui, je vous prie, qu'il s'accoutume à ne pas jaser tout seul aussi haut que tout à l'heure. Adieu, chevalier. » Elle toucha un petit timbre, puis relevant sur sa manche un flot de dentelle, tendit au jeune homme son bras nu. Il s'inclina encore et, du bout des lèvres, effleura à peine les ongles roses de la marquise. Elle n'y vit pas une impolitesse, tant s'en faut, mais un peu trop de modestie. Aussitôt reparurent les petites filles de chambre, les grandes n'étaient pas levées, et derrière elles, debout comme un clocher au milieu d'un troupeau de moutons, l'homme osseux, toujours souriant, indiquait le chemin. Seul, plongé dans un vieux fauteuil au fond de sa petite chambre à l'auberge du soleil, le chevalier attendit le lendemain, puis le surlendemain, point de nouvelles. Singulière femme, douce et impérieuse, bonne et méchante, la plus frivole et la plus entêtée. Elle m'a oublié, oh misère. Elle a raison, elle peut tout, et je ne suis rien. Il s'était levé et se promenait par la chambre. Rien, non, je ne suis qu'un pauvre diable. Que mon père disait vrai. La marquise s'est moquée de moi. C'est tout simple, pendant que je la regardais, c'est sa beauté qui lui a plu. Elle a bien été aise de voir dans ce miroir et dans mes yeux le reflet de ses charmes, qui, ma foi, sont véritablement incomparables. Oui, ses yeux sont petits, mais quelle grâce! Et la tour, avant Diderot, a pris pour faire son portrait la poussière de l'aile d'un papillon. Elle n'est pas bien grande, mais sa taille est bien prise. Ah, mademoiselle d'Annebeau, ah, mon ami chéri, est-ce que moi aussi j'oublierai? Deux ou trois petits coups de bec secs frappés sur la porte le réveillèrent de son chagrin. Qu'est-ce? L'homme osseux, tout de noir vêtu, avec une belle paire de bas de soie qui simulait des mollets absents, entra et fit un grand salut. Il y a ce soir, monsieur le chevalier, bal masqué à la cour, et madame la marquise m'envoie vous dire que vous êtes invité. Cela suffit, monsieur, grand merci. Dès que l'homme osseux se fut retiré, le chevalier courut à la sonnette. La même servante, qui 3 jours auparavant l'avait accommodé de son mieux, l'aida à mettre le même habit pailleté, tâchant de l'accommoder mieux encore. Après quoi le jeune homme s'achemina vers le palais, invité cette fois et plus tranquille en apparence, mais plus inquiet et moins hardi que lorsqu'il avait fait le premier pas dans ce monde encore inconnu de lui. Étourdi, presque autant que la première fois, par toutes les splendeurs de Versailles qui ce soir-là n'étaient pas déserts, le chevalier marchait dans la grande galerie, regardant de tous les côtés, tâchant de savoir pourquoi il était là. Mais personne ne semblait songer à l'aborder. Au bout d'une heure, il s'ennuyait et allait partir, lorsque 2 masques, exactement pareils, assis sur une banquette, l'arrêtèrent au passage. L'un des deux le visa du doigt comme s'il eût tenu un pistolet. L'autre se leva à lui et vint. « Il paraît, monsieur, lui dit le masque, en lui prenant le bras nonchalamment, que vous êtes assez bien avec notre marquise. Mais je vous demande pardon, madame, mais de qui parlez-vous? Oh, vous le savez bien. Allons, pas le moins du monde. Aussi fait, au point du tout. Et toute la cour le sait. Je ne suis pas de la cour. Vous faites l'enfant, je vous dis qu'on le sait. Cela se peut, madame, je l'ignore. Vous n'ignorez pas, cependant, qu'avant-hier, un page est tombé de cheval à la grille de Trianon? N'étiez-vous pas là par hasard? Oui, madame, oui. Ne l'avez-vous pas aidé à se relever? Oui, madame. Et n'êtes-vous pas entré au château? Sans doute. Et ne vous a-t-on pas donné un papier? Oui, madame. Et ne l'avez-vous pas porté au roi? Assurément. Mais le roi n'était pas à Trianon, il était à la chasse. La marquise était seule, n'est-ce pas? Oui, madame. Elle venait de se réveiller, elle était à peine vêtue, excepté à ce qu'on dit d'un grand peignoir. Les gens qu'on ne peut pas empêcher de parler disent ce qui leur passe par la tête. Fort bien, mais il paraît qu'il a passé entre sa tête et la vôtre un regard qui ne l'a pas fâché. Qu'entendez-vous par là, madame? Que vous ne lui avez pas déplu? J'en sais rien. Je serais au désespoir qu'une bienveillance si douce et si rare, à laquelle je ne m'attendais pas, qui m'a touché jusqu'au fond du cœur, puis devenir la cause d'un mauvais propos. Mais vous prenez feu bien vite, chevalier. On croirait que vous allez provoquer toute la cour. Vous ne finirez jamais de tuer tant de monde. Mais, madame, si ce page est tombé et si j'ai porté son message, permettez-moi de vous demander pourquoi je suis interrogé. Le masque lui serra le bras et lui dit « Monsieur, écoutez, oh, tout ce qui vous plaira, madame. Voici à quoi nous pensons maintenant. Le roi n'aime plus la marquise et personne ne croit qu'il l'ait jamais aimée. Elle vient de commettre une imprudence. Elle s'est mise à dos tout le Parlement avec ses deux sous d'impôts et aujourd'hui, elle ose attaquer une bien plus grande puissance, la Compagnie de Jésus. Elle y succombera, mais elle a des armes. Avant de périr, elle se défendra. Eh bien, madame, qui puis-je faire ? Je vais vous le dire. Monsieur de Choiseul est à moitié brouillé avec Monsieur de Berny. Ils ne sont sûrs ni l'un ni l'autre de ce qu'ils voudraient essayer. Berny va s'en aller, Choiseul prendra sa place. Un mot de vous peut en décider. En quelle façon, madame, je vous prie ? En laissant raconter votre visite de l'autre jour. Mais quel rapport peut-il y avoir entre ma visite, les Jésuites et le Parlement ? Écrivez-moi un mot, la marquise est perdue. Et ne doutez pas que le plus vif intérêt, la plus entière reconnaissance... Je vous demande encore pardon, madame, mais c'est une lâcheté que vous me demandez là. Est-ce qu'il y a de la bravoure en politique ? Oh, je ne me connais pas à tout cela, madame de Pompadour a laissé tomber son éventail devant moi. Je l'ai ramassé, je le lui ai rendu, elle m'a remercié. Elle m'a permis, avec cette grâce qu'elle a, de la remercier à mon tour. Alors, trêve de façon, le temps passe. Je me nomme la comtesse d'Estrade. Vous aimez mademoiselle d'Annebault, ma nièce. Ne dites pas non, c'est inutile. Vous demandez un emploi de cornette. Vous l'aurez demain, et si Athénaïs vous plaît, vous serez bientôt mon neveu. Oh, madame, quel excès de bonté! Mais il faut parler. Ah non, madame. Mais on m'avait dit que vous aimiez cette petite fille. Autant qu'on peut aimer, mais si jamais mon amour peut s'avouer devant elle, il faut que mon honneur y soit aussi. Oh, vous êtes bien entêté, chevalier. Est-ce là votre dernière réponse ? C'est la dernière, comme la première. Vous refusez d'entrer aux gardes, vous refusez la main de ma nièce. Oui, madame, si c'est à ce prix. Madame d'Estrade jeta sur le chevalier un regard perçant, plein de curiosité. Puis, ne voyant sur son visage aucun signe d'hésitation, elle s'éloigna lentement et se perdit dans la foule. Le chevalier, ne pouvant rien comprendre à cette singulière aventure, alla s'asseoir dans un coin de la galerie. « Mais que pense faire cette femme ?» se disait-il. « Elle doit être un peu folle. Elle veut bouleverser l'État au moyen d'une sotte calomnie, et pour mériter la main de sa nièce, elle me propose de me déshonorer, mais Athénaïs ne voudrait plus de moi. Ou si elle se prêtait à une pareille intrigue, ce serait moi qui la refuserais. Quoi ? Tâcher de nuire à cette bonne marquise, la diffamer, la noircir ? Oh, jamais, non, jamais !» Toujours fidèle à ses distractions, le chevalier, très probablement, allait se lever et partait tout haut, lorsqu'un petit doigt, à couleur de rose, lui toucha légèrement l'épaule. Il leva les yeux et vit devant lui les deux masques pareils qu'il avait arrêtés. « Vous ne voulez donc pas nous aider un peu ?» dit l'un des masques déguisant sa voix. Mais bien que les deux costumes fussent tout à fait semblables, et que tout parut calculé pour donner le change, le chevalier ne s'y trompa point. Le regard ni l'accent n'étaient plus les mêmes. « Répondrez-vous, monsieur ?»« Non, madame. »« Écrirez-vous ?»« Pas davantage. »« C'est vrai, vous êtes obstiné. Bonsoir, lieutenant. » « Que dites-vous, madame ? Voilà votre brevet, votre contrat de mariage. » Et elle lui jeta son éventail. C'était celui que le chevalier avait déjà ramassé deux fois. Les petits amours de boucher se jouaient sur le parchemin au milieu de la nacre dorée. Il n'y avait pas à en douter, c'était l'éventail de Madame de Pompadour. Ô ciel, marquise, est-il possible? Très possible, dit-elle, en soulevant sur son menton sa petite dentelle noire. Oh, je ne sais, madame, comment répondre. Il n'est pas nécessaire. Vous êtes un galant homme et nous vous resserrons car vous êtes chez vous. Le roi vous a placé dans la cornette blanche. Souvenez-vous que pour un solliciteur, il n'y a pas de plus grande éloquence que de savoir se taire à propos. Et pardonnez-nous, ajouta-t-elle en riant et en s'enfuyant, si avant de vous donner notre nièce, nous avons pris des renseignements. Fin de la mouche.